Bonsoir, bonsoir à tous. Et voilà, c'est parti pour la dernière émission de l'année de Parlons Patrimoine. Et comme d'habitude, pour la dernière, vous connaissez le proverbe, on a gardé le meilleur pour la fin. Ce soir, vous n'aurez que les meilleurs. Et c'est ce qui me
Merci
permet
Bernard.
d'introduire Romain Dippéo. Donc Romain, vous êtes un habitué, ce n'est pas la première fois. Vous êtes déjà venu, vous êtes venu nous rendre visite à Lisbonne, vous êtes venu faire la fête avec nous, enfin la fête sérieuse, avec une soirée où vous nous avez appris plein de choses. Vous arrivez comme le Père Noël, les bras chargés de cadeaux, avec deux nouveaux fonds qui sont maintenant en place et qui vont un petit peu faire la réalité de l'année prochaine. Avant de parler de ces fonds, on va parler de la société Ivéo. Et quand je pense à Ivéo, je pense toujours à la théorie du code postal, qui est la manière dont vous présentez votre façon d'aller sur les marchés émergents. Donc, je vous laisse nous présenter IVO et surtout cette théorie du code postal. Romain, c'est à vous.
Parfait. Merci beaucoup Bernard. Merci de nous donner cette fenêtre d'expression. Alors effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ivéo Capital Partners est une société de gestion française indépendante qui existe depuis plus de 10 ans. On est spécialisé sur les marchés obligataires cotés et non cotés. On est aujourd'hui 30 personnes. On gère un peu plus de 1 600 000 000 d'euros d'actifs sous gestion pour une clientèle qui va du CGP à l'institutionnel en France et en Europe. Et c'est vrai qu'on s'est fait connaître auprès de nos partenaires par. Alors, on gère des fonds ouverts hein, que vous connaissez. On a un flagship qui s'appelle Ivéo EM Corporate Debt. Et puis, on va revenir sur les fonds, sur les différents fonds de la gamme. Je vais d'ailleurs présenter deux nouveaux fonds aujourd'hui. On s'est fait connaître sur une stratégie qui a tout de suite parlé à nos partenaires, puisque c'est une stratégie simple, mais aussi évidente. C'est la stratégie mauvais pays, bonne société. Effectivement, on parlait de cette théorie de code postal. La stratégie mauvais pays, bonne société, elle consiste à aller chercher dans les pays émergents, puisqu'on est spécialisé sur la sélection d'obligations d'entreprise qui sont basées dans des pays émergents. Eh bien, elle consiste finalement à aller chercher des bonnes sociétés, mais qui sont basés dans des pays qui sont moyennement notés et qui vont donc pâtir d'une inefficience de notre marché crédit, qui est l'inefficience du plafond souverain des notations. Qu'est-ce que le plafond souverain des notations? Eh bien, vous pouvez être la meilleure société du monde en Argentine avec pas de dette du tout, voilà, plus de cash que de dette. Si vous êtes en Argentine, vous serez noté triple C puisque vous ne pourrez pas avoir une meilleure notation que l'Argentine qui est triple C. Et donc, en partant de ce constat-là, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les pays émergents qui sont moyennement ou mal notés, on va avoir, pour les sociétés comme nous qui font de la gestion active et l'analyse fondamentale, la capacité d'aller chercher des pépites qui vont être des très belles sociétés, mais qui vont être masquées par une notation qui sera la notation de leur pays. Et donc, on aura deux éléments qui sont assez contradictoires dans le crédit. Et quand on les trouve, eh bien, ça s'appelle une opportunité. C'est-à-dire une bonne société qui paye un rendement élevé. Et qui paye un rendement élevé, non pas parce qu'elle a des risques inhérents à sa capacité à vous repayer sa dette, mais parce qu'elle fait partie d'un pays. Alors, pour certaines sociétés, ça fait sens d'être capé en termes de rating par le rating du pays. Les sociétés qui sont très locales, les bancaires, par exemple, etc. Et il y en a d'autres pour lesquelles ça fait beaucoup moins sens. Je pense aux grands exportateurs qui font tout leur chiffre d'affaires, leurs revenus et qui ont tous leurs actifs, même à l'étranger. Eh bien, pour ces acteurs-là sur lesquels on va nous se spécialiser, eh bien, on va pouvoir avoir des opportunités de rendement risque. Et puis, vous savez, sur le crédit, la rémunération du risque, c'est un peu tout ce qui, voilà, tout ce qu'on cherche quand on est un gérant crédit, c'est d'avoir la meilleure rémunération ajustée du risque. Et c'est ce qu'on a construit dans nos fonds, avec d'abord un flagship qui s'appelle Ivéo IM Corporate Debt, Emerging Market Corporate Debt, qu'on a créé donc en 2015, qui a maintenant 10 ans de track. Et cette stratégie d'aller favoriser ces bonnes sociétés dans les pays a fait ses preuves, puisque le fonds est premier de sa catégorie Morningstar sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an. Il a de nombreux prix. C'est un fonds qui a dépassé les 800 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et puis autour de cette stratégie, qui est une stratégie donc opportuniste et très sélective, hein, puisque à partir du moment où on a trouvé, on a identifié une opportunité, il faut pouvoir l'analyser, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Ivéo, on fait de l'analyse crédit, eh bien, on a dessiné d'autres fonds qui s'adresse à d'autres profils de risque, à d'autres clients. Voilà, on a créé des
Alors,
fonds qui sont plus
Romain,
défensifs.
avant d'aller sur les autres fonds, j'aimerais un peu qu'on éclaircisse les choses. Quand vous expliquez comme ça, quand vous me donnez votre manière de travailler, ça me fait un petit peu penser au tourisme, où je me dis que dans certains pays qui sont entre guillemets des mauvais pays, on va passer de très belles vacances parce qu'on a implanté un spot un petit peu comme c'était un îlot différent du pays. Donc, dans des pays de pauvreté, on a des îlots de richesse pour passer de belles vacances. Et je me dis, ça fait un petit peu référence à tout ça. Ou alors aussi, dans des pays avec des difficultés sociales très élevées, on peut aussi créer des spots pour passer des vacances où là-dessus, il n'y a aucune difficulté sociale parce qu'on est complètement hétérogène au pays. Maintenant, de ce que vous me dites, moi, j'entends deux choses. J'entends, vous allez prendre moins de risques. Mais j'entends aussi, vous allez gagner moins d'argent, parce que j'ai l'impression que cette belle société en Argentine, qui ne va louer des biens immobiliers qu'à des sociétés étrangères aux États-Unis ou en Europe, elle va dire, OK, moi je vais chercher de l'argent sur les marchés, j'en ai besoin, mais je ne vais pas payer 12 comme la banque, je vais payer par exemple que 8. Et donc, mes deux questions, ce serait de savoir, c'est est-ce que dans votre fonds, on retrouve ça? Est-ce que c'est un fonds où on doit s'attendre avec moins d'agressivité que par exemple un ETF sur les pays émergents, et vous allez faire moins, mais vous allez amener plus de sécurité. Donc on accepte d'ores et déjà un rendement moindre, mais une sécurité plus élevée. Ou alors est-ce qu'au contraire, vous réussissez le coup double et non, vous ne sacrifiez pas la rentabilité, vous allez vous retrouver avec les mêmes rentabilités que les fonds obligations émergents agressifs. Et en plus, vous amenez un peu plus de sécurité. Alors, est-ce qu'on gagne? D'abord, est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne que d'un côté ou est-ce qu'on gagne des deux côtés?
C'est une bonne question. Alors, par rapport, si on se compare, bon, déjà par rapport aux pays développés, comme ça sera l'intro, on est forcément sur des meilleures rémunérations. Et c'est vraiment ce que viennent chercher nos investisseurs, c'est la diversification par rapport à ce qu'ils ont déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà? C'est du pays développé. En allant sur les émergents, on va diversifier et on va aussi optimiser la rémunération. Vous prenez une société qui est en France de notation BB, une société qui est au Brésil de notation BB, pour le même risque crédit de notation, la société des pays émergents va payer systématiquement mieux et pour des meilleurs fondamentaux crédit. Donc ça, c'est évacué, c'est la comparaison par rapport aux pays développés et c'est pour ça qu'on va sur les émergents, c'est pour optimiser, booster, diversifier une exposition qui est déjà existante sur les pays développés. Premièrement. Ensuite, par rapport aux indices, en fait, la stratégie est assez différenciante. Si je devais revoir dans le passé sur les 10 dernières années, est-ce qu'on a été mieux payant, mieux rémunérant que les indices? Oui, ça a été le cas. On a systématiquement, je dirais, mieux payé que l'indice de référence. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas benchmarké. Et le benchmark émergent est un benchmark qui est investment grade. Voilà. Le benchmark qu'on appelle le CEMBI, le Corporate Emerging Market Bond Index, est un benchmark qui est à 60% investment grade, 40% à yield. Donc de toute façon, nous, avec notre fonds flagship, qui est de toute façon entre le BB et le simple B, donc sur la partie à yield, on paye forcément mieux que l'indice de référence, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que l'indice, il a des biais sectoriels et géographiques qui sont à l'inverse de ce que nous, on va chercher dans le marché. Et c'est pour ça, c'est une des choses qui explique, selon nous, qu'on a systématiquement battu l'indice sur les 10 dernières années, à la hausse et à la baisse également. Bah, c'est parce qu'on a des biais très très forts sur l'indice. Il faut savoir que l'indice, c'est plus de 50% d'obligations qui sont en Asie. Et sur ces 50%, la moitié, donc 25% de toutes les obligations en dollars mondiales qui sont basées dans les pays émergents, donc le crédit émergent libellé en dollars, sont de la Chine. Il y a 25% de Chine dans l'indice, ce qui est énorme. C'est un très très gros biais qui nous plaît pas du tout. Et je vais l'expliquer pourquoi. Deuxième biais sectoriel, c'est le biais lié aux bancaires. Les bancaires, c'est plus de 30% de l'indice corpo émergent. Donc de la même façon, c'est un biais sur lequel nous on est un peu à l'inverse dans la stratégie qu'on a. Et donc sur ces deux gros biais de l'indice, biais géographique, biais sectoriel, presque 30% de Chine et presque 30%, plus que 30% de financière, on va être très sous-exposé.
Alors,
Pour
juste, je
voilà.
vous interromps. Donc, qui veut dire que si demain il y avait un redressement de la Chine, très net redressement de la Chine, donc des entreprises, puisque là il y a eu pas mal de faillites, donc je pense qu'il y a des obligations qui n'ont pas été honorées, tout particulièrement dans le domaine immobilier. Mais si on assiste à un redressement de la Chine et qu'on assiste à un redressement bancaire, cette fois-ci pas que de la Chine, mais mondiale, vous allez donc pendant une petite période sous-performer l'indice. Ou alors, est-ce que, pas obligatoirement, puisque en fin de compte, c'est une décision qui a été prise de manière conjoncturelle de ne pas aller sur la Chine et de ne pas aller sur les banques, ou c'est une décision structurelle et vous pourriez changer et y retourner dès que vous pensez que le ciel se sera un petit peu amélioré.
Alors c'est vrai que sur ce fonds-là, en tout cas sur le fonds flagship, ce qui est un peu différent du fonds qu'on lance aujourd'hui, qui sera un fonds en moyenne investment grade, mais sur ce fonds qui est plutôt à haut rendement, à yield, effectivement c'est structurel d'avoir moins de Chine que l'indice, moins de Chine que nos concurrents. C'est structurel, ça nous a coûté pendant 3, 4, 5 ans. Là, sur les 2-3 dernières années, ça nous a rapporté, mais c'est quelque chose dont on ne peut se défaire. Puisque c'est les obligations chinoises sont un peu l'inverse de ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des bonnes sociétés, mais dans des pays qui sont moyennement notés. Le high yield chinois, c'est différent. Si vous avez du yield, c'est parce qu'il y a un problème crédit. C'est pas parce que ça appartient à la Chine, puisque la Chine est elle-même investment grade, vous voyez. Donc finalement, c'est un peu l'inverse des sociétés qu'on aime en Chine. Ce sont des sociétés qui sont très leveragées, donc très endettées, qui sont très opaques aussi, hein. Donc l'analyse crédit n'est pas évidente. C'est vraiment le seul pays où on a du mal à aller au bout de l'analyse crédit, alors que c'est beaucoup moins le cas sur les autres pays. Et on n'a pas cette opportunité liée au plafond souverain, puisque le souverain est lui-même investment grade. Donc
D'accord.
effectivement, ça sera structurel sur ce fonds. Pareil
Allez.
sur les financières.
Et
Pardon.
il nous reste peu de temps. Donc, il nous reste peu de
Ah,
temps et
pardon.
je voudrais vraiment qu'on parle des deux nouveaux fonds. Donc, on commence par IVO IG 2030.
Oui, alors IVOIG 2030, comme son nom l'indique, c'est un fonds à échéance 2030. IG pour Investment Grade. Effectivement, depuis 10 ans, on a surtout lancé des fonds à haut rendement. Mais là, on a un contexte de taux aux US. Vous savez qu'on est investi sur des obligations qui sont libellées en dollars, donc ce sont des obligations qui répondent à la dynamique des taux aux US. Aujourd'hui, on a un contexte de taux aux US qui est historiquement haut. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux 5 ans aux US est à 4,2-4,3%. C'est un taux qu'on a eu lors des pics de crise des taux 2022, mais la dernière fois qu'on a eu ces taux-là, c'était plutôt en 2007. Donc au niveau de ces taux US qui composent la majorité de nos rendements, on a un environnement très très favorable, ce qui nous pousse à aller créer aujourd'hui un fonds moyen investment grade, puisque si vous regardez le segment investment grade, sur les émergents, eh bien, on est sur des niveaux historiquement hauts de rémunération, et pas seulement, à un moment où les fondamentaux crédits des émetteurs sont aussi sur des niveaux historiquement bons. Donc, vous avez structurellement une bonne rémunération du risque sur les émergents, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est encore plus le cas. On est sur des rendements qui sont historiquement hauts et sur des fondamentaux crédits qui sont historiquement bons. Pour vous donner un ordre d'idée des fondamentaux crédits sur l'investment grade émergent, on est aujourd'hui sur des leviers d'endettement de 0,9 fois net dette sur EBITDA en moyenne sur l'investment grade émergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moins d'un an d'EBITDA, les émetteurs émergents investment grade peuvent rembourser la totalité de leur dette nette. C'est donc une configuration de rémunération du risque qui est particulièrement attractive dans le cadre d'un fonds daté, puisque ça rassure sur la capacité des émetteurs à aller au bout. Et surtout le faire de façon attractive. C'est-à-dire que quand on lance un fonds daté, on se demande si c'est un bon timing. Bon, ben là, on a vu, historiquement, on est plutôt bien. Pour vous donner le niveau de rendement de ce fonds au lancement, qui sera un fonds moyen IG, donc en 60% investment grade et le reste sur le haut du panier à yield WB, on démarre avec plus de 5% en euros de rendement. 5% de rendement en euros de rendement et pas sur du court terme, pas sur du 1 an sur du 2000 jusqu'à 2030. Donc la valeur embarquée est très importante et on a rarement vu ce niveau de rémunération sur ce niveau de notation. Il sera lancé avec une notation moyenne minimum triple B moins, ce fonds-là. Voilà.
D'accord.
C'est un fonds qu'on trouve intéressant pour les investisseurs D'ailleurs, on a une forte demande, on l'a lancé il y a 4 semaines et on a déjà presque 20 millions d'actifs sous gestion. Il y a vraiment de la demande pour plusieurs raisons. Bien sûr que les investisseurs veulent se diversifier en termes géographiques, en termes sectoriels, veulent aller chercher cette courbe des taux US très haute, etc. Mais on a aussi un contexte de taux court qui est de moins en moins intéressant, hein. Et donc on a des investisseurs qui sortent de solutions à très court terme et qui veulent aller chercher un peu de portage et qui veulent aller sur du un peu plus long pour pouvoir ne pas être exposé à un risque de réinvestissement qui arrive à grands pas. Voilà, donc ça c'est le contexte de taux. Je dirais que il y a de la diversification, oui, une rémunération qui est très attractive par rapport à la notation de ce qu'ils ont déjà pour diversifier une poche de fonds de retraite existante, et aussi on a un contexte de taux court qui est de moins en moins intéressant. Et de l'autre côté de l'argumentaire, je dirais, on a aussi des niveaux de valo sur les actions qui est aussi très incertain, très compliqué d'avoir sur des niveaux de valo. Enfin, vous connaissez mieux que moi cette classe d'actifs là. Aujourd'hui, c'est compliqué de se dire on est bien pricé sur les valorisations des actions, en tout cas aux US. En Europe, c'est un autre débat. Donc voilà, il y a plusieurs arguments qui font que ce fonds-là s'intègre assez bien dans une allocation obligataire traditionnelle, mais aussi allocation obligataire datée. Ça va venir
Allez,
diversifier et booster.
on passe au deuxième fonds, donc Ivéo Global High Yield.
Oui,
Donc
donc le
là, on
fonds
n'est plus
Ivéo.
dans l'investment grade, on rentre dans la
On
yield,
revient dans le high yield,
automatiquement plus
effectivement.
de risques, plus de rendement.
Tout à fait. Alors, ce fonds-là, il est intéressant puisque ça nous permet de mettre un premier pas sur le high yield des pays développés. C'est un fonds qui va être, je dirais, encore plus opportuniste que nos fonds existants. Nos fonds existants étaient opportunistes, mais restaient quand même 100% émergents. Donc, quand vous avez une vague qui vient heurter les émergents, vous pouvez être le meilleur gérant, le meilleur bond picker possible. Vous serez impacté dans tous les cas par ce, je dirais, bêta de marché. Ce fonds-là, il cherche à dépasser un peu cette faiblesse, entre guillemets. En ayant la capacité d'aller à la fois sur les émergents, mais aussi sur le US High Yield, sur l'Euro High Yield, et d'avoir une très grosse poche de cash. Donc, on est flexible à tous les niveaux.
Est-ce
On
qu'il
va
va y
avoir une
avoir
poche.
une règle de répartition? Est-ce qu'il y aura toujours un minimum d'émergents ou un minimum de non-émergents? Ou est-ce que le curseur est totalement libre?
Le curseur est totalement libre, mais il faut savoir que c'est un fonds qui est repris par une de nos nouvelles recrues qu'on a recrutées cette année dans l'équipe de gestion. Aujourd'hui, on est 13 personnes dans l'équipe de gestion, dont 4 gérants, dont ce gérant-là, Boris Fischer, qui nous a rejoint après presque 10 ans dans une autre société de gestion où il gérait déjà cette stratégie. Et c'est vrai qu'on a du coup une bonne idée de, on va dire, des fourchettes. Hein. Ce n'est pas juste un PowerPoint. Et c'est vraiment une stratégie qui a déjà été pratiquée. Et c'est vrai qu'en moyenne, on a quand même une prépondérance de à peu près 50% du coup sur les émergents et le
Okay.
reste sur
Alors
le
voilà,
yield
j'ai
US et Europe.
une dernière question. Vous
Oui?
avez moins d'une minute pour y répondre et comme ça, on n'aura pris que 5 minutes de retard. Donc,
D'accord.
vous avez lancé le 2030, vous avez déjà un 2028. Donc, ce n'est pas encore vraiment une gamme, mais ça risque de le devenir si un troisième fonds daté sort. Nous, il y a une question des auditeurs et des clients aussi d'ailleurs qui revient systématiquement. Est-ce qu'une règle fixe a été prévue pour sortir du daté? Ou est-ce que vous vous dites, on verra quand on arrivera? Donc, en règle fixe, par exemple, vous dites, voilà, 31-12-2028, on rembourse nos gens. Ou alors, est-ce qu'il y a déjà une règle qui a été dite avant le 31-12-2028, donc en juin 2028, on donnera un nouveau tempo au fond, on l'expliquera aux clients et ceux qui veulent rester resteront, ceux qui veulent sortir sortiront. Ou est-ce que c'est une stratégie, on fera avaler le fond par un autre fonds, ou alors est-ce que vous n'avez pas de stratégie et vous dites on réfléchira le moment venu à ce qui est le mieux et on décidera. Vous avez 45 secondes pour nous répondre et après on passera à l'édito.
D'accord. Alors, a priori, ça sera la voie classique, hein, c'est-à-dire la voie classique, c'est un remboursement, enfin une liquidation du fonds. Après, c'est vrai que pour être honnête, on n'a pas encore réfléchi, puisque le fonds échéance est à 2028, le fonds à yield 2028, donc on n'a pas encore vraiment, on réfléchit peut-être effectivement à proposer aux investisseurs de rouler sur une autre maturité. On ne l'a pas décidé encore, de toute façon. un petit peu de temps encore pour vous prévenir de tout ça.
Super. Merci
Voilà.
beaucoup Romain. Vous restez avec nous,
Merci à
c'est
vous.
le moment de l'édito et on enchaînera sur le débat.
Merci.
Et si tout était déjà dans les cours, il y a un consensus haussier sur les marchés US pour l'an prochain, porté par l'arrivée de Trump et des choses qu'il a prévu de mettre en place au plus vite. Trouver une solution en Ukraine, mettre en place un cessez-le-feu au Moyen-Orient, déréguler l'économie américaine. Et avec l'aide de son acolyte Elon Musk, on a peu de doutes sur le fait qu'il va essayer. C'est loin d'être sûr qu'il va y arriver, on verra tout à l'heure pourquoi, mais en tout cas, il va essayer. Tout le monde attend la hausse, mais n'a-t-elle pas déjà eu lieu? La hausse depuis son élection et le niveau record sur lequel vont finir les marchés américains cette année n'est-il pas ce que nous appelons acheter la rumeur? Et dans ce cas, il faudrait plutôt craindre la deuxième partie de la phrase, vendre la nouvelle. Cela serait vrai pour l'Ukraine, le Moyen-Orient, la dérégulation. Et dans ce cas, que nous reste-t-il à attendre? Soit un échec plus ou moins important, ou alors l'accomplissement de la chose prévue. Mais dans ce cas-là, l'accomplissement de la chose prévue est déjà intégré dans les cours. En fait, rien de bon pour une hausse des marchés. Je n'ai aucun doute sur le fait que la dérégulation est propice à la bonne marche des affaires, mais j'ai quelques doutes sur le fait que ce soit simple et rapide de déréguler dans une démocratie avec des contre-pouvoirs et une justice pouvant être saisie à tout moment. Il y a une définition du pouvoir que j'aime bien. Le pouvoir, c'est cinq choses. Faire, faire faire, laisser faire, ne pas faire, empêcher de faire. En lisant cela, je me dis que notre président en a bien peu. Et notre premier ministre encore moins. Nous allons discuter de tout cela. Mon point de vue est que nous ne risquons pas grand-chose sur les marchés US jusqu'à la publication du T1. Et après, il faudra vraiment faire attention. Allez, essayons de ne pas être consensuels et voyons comment vous envisagez l'an prochain. David, comme d'habitude, c'est à vous, vous démarrez. David, il faut mettre votre micro.
Voilà, pardon. Bonjour à tous. Merci Bernard pour cet édito. La question que vous posez sur les États-Unis, elle est bien entendu clé. Vous vous dites, voilà, premier trimestre, ça ira et après, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on regarde les bénéfices des entreprises et les attentes des bénéfices des entreprises, un environnement qui va rester quand même extrêmement porteur. On a à peu près 9% de croissance en début d'année, autour de 9,6, puis après on passe autour de 12-13%. C'est un contexte quand même très très robuste et très solide. Si les entreprises délivrent ça, est-ce qu'on a véritablement une chance de voir le marché US baisser fortement? C'est compliqué de le voir. En revanche, et c'est là où je vous rejoins un peu, c'est que donc au niveau des bénéfices d'entreprise, c'est solide. Au niveau des valorisations des entreprises, ben, elles sont effectivement très très riches, surtout en cette fin d'année. Et voilà, on n'a pas intérêt à avoir un accident. Donc j'ai envie de dire, voilà, si les entreprises délivrent au niveau des bénéfices, et encore une fois, n'oubliez pas que les entreprises américaines ont plutôt une tradition de surprendre à la hausse le consensus. Donc, si on est dans ce scénario-là, est-ce qu'on risque d'avoir une baisse forte? C'est compliqué. Après, bien entendu, comme vous dites, on est un peu pricé pour la perfection, hein, comme disent les Anglo-Saxons, et il faut pas qu'il y ait de grains de sable dans le déroulé de 2025.
Bon, on va en donner un petit peu plus à nos auditeurs, hein. On va un petit peu se mouiller. Donc, vous pensez quoi en 2025? Déjà, aujourd'hui, on reste. Donc, en vous écoutant, c'est assez clair, on reste et on se prépare à partir. On reste sur l'année. Enfin, c'est quoi la stratégie?
Alors, moi, j'ai une vue sur 2025, c'est que effectivement, et c'est quelque chose que je vais essayer d'élaborer dans ma chronique des marchés, mais le consensus, il a rarement raison. Donc, ce qui est intéressant à chaque année, c'est de regarder où est le consensus, en se disant, bon, bah, de toute manière, c'est pas ça qui va se passer, et essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir une surprise ou une déception. Là où, si on parle de déception, le secteur sur lequel il y a le plus d'attentes, le secteur sur lequel les valorisations sont le plus riches, c'est bien entendu le secteur de la technologie et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, le risque, il est là. Et j'ai envie de dire, plus que de dire on sort du marché américain ou on se met ailleurs, etc., j'ai plutôt envie de dire on rééquilibre. Si vous avez un portefeuille d'actions américaines, par l'effet marché de cette année, le poids de la technologie a significativement augmenté. Tout simplement parce que les performances des boîtes technologiques ont été très fortes et ont surperformé le marché. Donc, moi, j'ai envie de dire, cet argent qu'on a gagné sur la tech, il faut le sortir de la tech, il faut le rebalancer sur des secteurs beaucoup plus traditionnels, sur lesquels les attentes sont moins fortes et du coup, les possibilités de déception sont moins fortes également. Voilà, donc c'est un peu contre, si vous voulez, des choses non consensuelles. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment d'être prudent sur la tech US.
Ok, allez, merci pour tout ça, Maël.
Bonjour, non, mais c'est intéressant ce que dit David parce que au final ça me fait penser un petit peu au Bitcoin. Bitcoin, on dit toujours il fallait sortir et puis au final ceux qui sont pas sortis, bah, ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc je dis pas que David a tort, hein. Moi je me pose juste la question de savoir si au contraire on n'a pas un potentiel de gain encore assez important sur la tech et le fait de sortir, ça nous obligera à sortir un peu trop tôt. Enfin, je sais pas du tout, hein, mais moi en tout
Alors,
cas.
je vais vous couper la parole parce que là, vous avez dit quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. Après, on va vous laisser continuer et surtout voir un petit peu, vous êtes un peu notre indicateur des flux rentrants et des flux sortants. La dernière fois que j'ai discuté du Bitcoin avec David, je dis que j'avais un peu le sentiment d'être une vache dans le pré qui regarde le train passer. Et David, il m'a dit, ben, moi aussi, un peu quelque chose comme ça. Et vous, alors? Il y a
Bah,
plein de Bitcoin à la maison, Maël, ou vous êtes un petit peu cette vache qui regarde le train passer?
je suis un peu plus jeune que vous deux, mais non, je plaisante. Mais moi aussi, j'en ai pas du Bitcoin. J'ai voulu en acheter et quand j'ai voulu en acheter, c'était trop compliqué. J'y suis pas arrivé. Ça s'est cassé la figure. J'étais content de pas en avoir acheté. Je regardais une étude intéressante la semaine dernière. Si vous avez investi 100 euros dans le Bitcoin en 2011 et que vous l'avez pas vendu, ça vaut 6 millions 9 aujourd'hui. Entre-temps, ça a évolué énormément, donc c'est monté à 800 000 dollars, c'est redescendu, etc. Donc je connais personne qui met 100 euros et quand ça atteint 800 000 dollars et qu'il prend pas ses 800 000 dollars.
C'est évident.
Donc
C'est
c'est un peu ça
évident.
la tech. Est-ce que la tech, ça vaut pas le coup de prendre ses bénéfices et de se repositionner
On a les mêmes chiffres avec Coca-Cola et McDonald's. Hein. Si vous
Oui.
avez participé à l'introduction en bourse de Coca-Cola ou McDonald's et que vous n'avez jamais vendu, eh ben, aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. Hein.
Ça marche dans quasiment toutes les actions, hein, dans
Alors,
toutes
et
les...
en termes de flux, est-ce que vous... Et donc, bon, dans la compagnie d'assurance Willis, donc il y a eu beaucoup de flux entrants sur le marché américain, je suppose. Est-ce que ça se tarit ou est-ce que vous voyez toujours ces flux entrants sur le marché américain?
Non, non, on voit encore beaucoup sur le flux américain. Je vois beaucoup de sorties de France, de fonds qui sont plus investis sur le marché français. Je vois pas mal d'Europe. Apparemment, il y a un pari Angleterre 2025 aussi. On voit beaucoup de paris sur l'Angleterre en 2025.
Donc là, vous dites des gens qui achètent de l'Europe?
Ouais, qui
D'accord.
achètent de l'Angleterre et qui vendent du français. Et j'ai eu beaucoup de flux sur les États-Unis. Ouais. Effectivement,
D'accord.
c'est un peu ça, c'est encore ça la tendance.
Allez, on va demander à Romain de nous délivrer son avis un petit peu. Bon, lui, il a l'avantage, il parle en dernier, donc il a un petit peu écouté tout le monde. Donc déjà, dans son avis, on peut avoir un début de la synthèse et ensuite, on reviendra chacun notre tour pour donner un petit peu une synthèse là-dessus.
Alors moi c'est vrai qu'on est spécialisé plutôt sur les obligations des pays émergents, donc sur la question des valorisations actions aux US, je dirais qu'on est d'accord avec David Calfon, Emmaël Toledano. Voilà, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire. On n'a pas vraiment un avis marqué sur la question. Si on devait réfléchir, si on se disait que les valos étaient influencés par des mouvements de taux, ce qui est souvent le cas aussi au niveau des actions, puisque le prix des actions reflète, enfin, c'est très lié au niveau des taux. Les prévisions de taux US l'année prochaine, malgré l'arrivée de Trump au pouvoir et ses politiques pro-croissance, etc., sont quand même à la baisse, je parle des taux longs, hein, des taux longs, donc des expectations d'inflation, les taux 5-10 ans sont plutôt sur des légères baisses. Que sur des fortes baisses au niveau des valos. Donc, quel impact ça aurait sur les actions? Là, honnêtement, je sèche pour cette question-là. Voilà, en tout cas, sur les obligations qui sont libellées en dollars, eh bien, on est plutôt sur un scénario higher for longer, Très belle chaise hein, d'ailleurs, pas Bernard. Donc Higher for Longer, ce qui est voilà, je crois que je vous ai fait peur avec mon histoire de taux.
Non. Des petits problèmes techniques. Des petits problèmes
D'accord.
techniques. Non, mais c'est intéressant pour ces taux parce que, bon, un président, il a beaucoup d'influence sur la politique américaine. On n'est pas du tout dans le système français où De Gaulle disait la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. En plus, avec quelqu'un comme Trump, il est particulièrement intrusif et il va être autant intrusif qu'il le veut. On connaît un petit peu ces dogmes. Donc, le déficit public, ils s'en foutent. Comme de l'an 40. Ils s'en foutent complètement. Des fois, on se demande s'il n'a pas raison d'ailleurs. Les impôts, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il rêve de faire muter les impôts sur le revenu américain en taxes d'importation. Bon, ça ne sera pas aussi facile, mais il va en faire. En revanche, il a la Banque centrale américaine derrière, qui ne laissera pas passer l'inflation et qui montera les taux s'il y a trop d'inflation. Et baisser les impôts, augmenter les droits de douane, c'est inflationniste. Donc on pourrait avoir à un moment la Banque centrale américaine qui lui ferait passer un message assez ferme, c'est-à-dire elle n'osera pas monter, d'abord elle ne l'a jamais fait. Donc, elle le fera encore moins avec Trump. Elle n'osera pas prendre tout le monde à revers et monter les taux, mais elle dira lors d'une réunion, la baisse des taux est maintenant finie, et si l'inflation ne se maîtrise pas, nous n'aurons d'autre choix que de les monter. Ça, ils pourront dire quelque chose comme ça. Et là, les marchés, actions en tout cas, pourraient ne vraiment pas aimer ça. On pourrait ne vraiment pas aimer ça. Et on pourrait se prendre une petite purge, 7, 8, 9, 10, 12, 15%, ça peut aller très vite en quelques jours, surtout qu'il y a de la marge parce qu'il y a beaucoup de valeur. Quand vous regardez l'entreprise, même si vous la discontez de 15%, ça ne change rien du tout. Ça change absolument rien. Donc ça, c'est un petit peu ma crainte et mon schéma de l'alerte. Qui pourrait faire, voilà, qu'on ait vraiment un problème et qu'il faut attendre. Et après, là où je rejoins totalement Maël, il ne faut pas sortir de la technologie. Voilà. Donc, il ne faut pas sortir de la technologie. Il faut faire attention à la part qu'on y met, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le fou furieux en disant maintenant j'ai 40% ou maintenant je mets tout sur la technologie parce que c'est l'avenir. Mais ce qu'on est en train de vivre avec cette intelligence artificielle, on va vivre en 10 ans ce qu'il a fallu 400 ans pour vivre avec Gutenberg et l'imprimerie. Et on le voit tous, on est tous à tester et à utiliser des outils et pour améliorer nos mails et pour améliorer la lecture d'un contrat et pour améliorer un autre truc et ainsi de suite. Et on voit bien que c'est quelque chose qui petit à petit va rentrer partout, va s'installer partout, qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en rende compte, mais demain, dans les télévisions, il y aura des logiciels d'intelligence artificielle qui sauront nous aider. Enfin, c'est le monde qui est en train de changer, comme le monde a changé avec l'imprimerie et l'arrivée du livre dans tous les foyers, et non pas juste le livre pour une ultra minoritaire élite. On l'a vu avec les ordinateurs, au début, il fallait vraiment faire partie de l'élite intellectuelle et de l'élite économique pour avoir un ordinateur. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur. On l'a vu avec plein de choses. Et on est dans un monde technologique où, un petit peu avec cet effet boule de neige, les choses vont de plus en plus vite. Et là aussi, ça va aller de plus en plus vite. Donc, de mon point de vue, probablement un accident, probablement encore des accidents, mais on ne quitte pas la technologie. Et si on regarde les 50 dernières années, il n'a jamais fallu quitter la technologie, même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc, conjuguer la technique de David qui dit, si vous avez mis 20% de votre portefeuille en technologie parce que vous estimez que c'est bien, aujourd'hui, avec les hausses, bah, vous allez vous retrouver à 23, 24, 25, 26, ça dépend comment le reste était orienté. Vendez ces 3, 4, 5, 6, revenez à votre 20% qui est le fruit de la raison, qui est le fruit de votre position, de votre réflexion souvent longue sur ce que vous devez avoir dans votre portefeuille. Et continuer sur ce chemin. Donc voilà ma synthèse. Si quelqu'un veut la compléter, ou même si quelqu'un en a une totalement différente, on a encore 2, 3 minutes et donc vous pouvez participer. Donc voilà, on n'aime pas le consensus ici, donc dites-moi plutôt des choses qui vont un peu à l'encontre de ce que j'ai dit. Romain, quelque chose à rajouter, quelque chose à enlever, quelque chose de différent?
Non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. La seule chose, c'est que c'est vrai que sur l'obligataire aujourd'hui, à la différence des 10 dernières années, on est sur des très bonnes rémunérations, des risques très bas. Voilà, quand on a des taux US qui sont si hauts, c'est vrai que la prudence, on va dire, et l'équilibre coûtent pas cher et au contraire rapportent beaucoup. Donc je dirais que effectivement. Aujourd'hui, se mettre en attente ou se rééquilibrer, rapporte quand même beaucoup, hein. Je sais pas si je dois le redire, ça c'est un peu. Mais c'est vrai que notre fonds qui est moyen investment grade paye du 5% en euros. Le fonds IG 2030, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on a rarement vu en tout cas sur les 20 dernières années. Et donc c'est vrai que ça rapporte aussi de pas prendre du tout de risque. Enfin presque pas de risque, attention, il y a toujours du risque. Ouh là là. Donc voilà, je voulais juste rajouter cet élément qu'aujourd'hui les positions d'attente sont assez bien rémunérées.
D'accord. Alors, juste là, je vais mettre un petit bémol quand même pour nos auditeurs, parce qu'il y en a souvent qui me font des remarques. Quand on est dans le marché du détail, donc quand on est dans le marché de la gestion de patrimoine au détail, il faut faire très attention avec les fonds obligataires et les rendements qu'ils annoncent. Parce que quand vous, Romain, vous dites 5, ça veut dire que votre stratégie, elle est capable de délivrer 5. On est d'accord? Mais là-dessus, pour
Brut.
délivrer cette stratégie, vous prenez des frais.
Ouais.
Vous prenez environ 1% de frais. Alors, il y a des parts probablement avec un peu moins de frais, peut-être des parts avec un tout petit peu plus de frais. Mais disons, pour un particulier, entre guillemets, lambda, il va avoir 1% de frais. Une gestion par un intermédiaire, à peu près quel qu'il soit, que ce soit un gestionnaire de patrimoine, que ce soit un banquier, c'est vrai que quand c'est une gestion directe sur Internet, c'est un petit peu moins cher, ça va recoûter encore à peu près 1%. Et donc, ce 5, qui peut paraître vraiment un chiffre super sexy, il devient 3. Voilà. Et là, on se retrouve en concurrence avec des fonds euros qui, eux, pour le coup, ont, on va dire, dans le langage officiel, aucun risque, même si le aucun risque n'existe pas, mais en tout cas, n'ont aucun risque, et qui vont être dans des choses autour de 50, de 60. Et là, on est dans une compétition peut-être un peu déloyale, parce qu'on n'est pas sur la même chose, mais voilà. Donc ça, c'était pour les auditeurs et vous, parce que tout à l'heure, il y en a qui vont m'appeler et qui vont me dire le truc à 5%, là, tu m'en mets, s'il te plaît. Et je vais leur expliquer que ce n'est pas vraiment 5% qu'ils vont avoir. Mais ça empêche que c'est, voilà,
Voilà.
on est très, très bien. Et que si on continue à avoir une baisse des taux courts, le produit va s'améliorer puisque la différence va venir positivement pour ce produit.
Tout à fait.
David, Maël, pardon. David, on va le garder pour la fin, comme ça il enchaînera sur son édito. Maël, quelque chose à rajouter, quelque chose de différent, quelque chose que vous voulez dire un petit peu sur la position que j'ai prise par rapport à la technologie, par rapport à l'évolution des marchés américains?
Ben non, vous m'avez paraphrasé, je peux être que d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord qu'il faut regarder, il faut rééquilibrer le portefeuille. Hein. Nous, assureurs, on fait très attention. Quand vous avez un profil dynamique et qu'il y a une valeur qui surperforme, on vous demande de rester dans les clous, donc on vous demande de rééquilibrer. Ça, David a tout à fait raison. Il faut rééquilibrer son portefeuille. Je suis d'accord avec vous aussi, il faut pas sortir. Par contre, les clients ou les partenaires qui jouent 100% US, ça, je trouve ça un peu dangereux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que c'est bien de diversifier. Pourquoi pas aller jouer. Alors la Chine, c'est pas forcément à la mode en ce moment, mais pourquoi pas aller jouer l'Inde qui a un potentiel de croissance énorme, l'Angleterre ou d'autres pays en Europe, des grosses capitalisations françaises. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques. J'irai pas m'éparpiller en France non plus quand même, hein, on sait jamais. Mais je pense que ce qu'il faut rappeler, ce qui est très important, c'est de bien diversifier et de pas tout mettre sur un seul pays et sur une seule devise surtout.
Super. Alors, David, vous avez 1 minute pour conclure sur cet édito et ensuite vous démarrez avec le point marché.
L'essentiel a été dit. Juste un point sur lequel peut-être d'ailleurs que Romain pourra rajouter 10 secondes de commentaires. Mais quand on parle de valorisation, j'ai envie de dire que ces valorisations un petit peu tendues, j'ai envie de dire qu'on les retrouve un peu sur l'ensemble des classes d'actifs. Et si on regarde la rémunération du high yield, donc ce qu'on appelle les spreads, hein, c'est l'écart de rendement entre les taux d'intérêt sur une obligation high yield et les taux d'intérêt sur une obligation d'État, considérée comme sans risque. Ce niveau des spreads, il est quand même devenu assez serré. Et donc, voilà, je rajoute juste ça comme point de vigilance, en disant, voilà, on se concentre beaucoup sur les marchés actions, mais sur le marché du high yield, là aussi, on n'a pas intérêt à avoir de grains de sable parce que les spreads sont très serrés, il n'y a pas beaucoup de rémunération au-delà du taux sans risque.
Super. Allez, et c'est ce qui conclut cet édito. David, vous démarrez avec votre traditionnel point marché et là aussi, ce sera le dernier de l'année.
Très bien, en effet, très heureux de vous retrouver tous pour cette dernière chronique des marchés de 2024, une année 2024 qui aura été remarquable à bien des égards. Alors, remarquable déjà par la solidité des performances enregistrées sur les marchés actions. Je rappelle les chiffres, hein, on est à peu près à 28% de hausse pour les actions américaines, 30% pour le Nasdaq, plus 13% pour les actions de la zone euro. Et j'aurai la politesse et la délicatesse de ne pas parler de la contre-performance de l'indice CAC 40, qui est proche de zéro, et 18% pour les actions japonaises. Donc, performance exceptionnelle sur les marchés actions. Une année 2024 remarquable également par le contexte de taux d'intérêt. Et là, je me suis livré à un petit exercice d'introspection. La période y est propice. Comme chaque fin d'année, je me suis repenché sur ce que je vous disais à la même époque l'an dernier. En décembre 2023, je vous alertais sur l'anticipation de baisse des taux que je jugeais beaucoup trop optimiste. Alors, je vous rappelle, à l'époque, le marché attendait 1% de baisse des taux aux États-Unis et 1,25% de baisse des taux en zone euro. Et ces baisses, surtout, devaient débuter, encore une fois, selon le consensus de l'époque, dès le mois de mars 2024. Alors, que s'est-il passé? Bah, résultat des courses, la Banque centrale a baissé, européenne a baissé ses taux de 1% et non de 1,25%. Le mouvement de baisse, il a commencé en juin et pas en mars. Et si on regarde du côté du marché américain, ce n'était pas mieux. La Fed a baissé ses taux de 0,75% et non de 1%, avec un mouvement de baisse initié en septembre et non pas en mars comme prévu. Nous avons bien eu beaucoup moins d'assouplissement monétaire que prévu en 2024. Et je pourrais m'arrêter là et vous expliquer à quel point mes prévisions étaient bonnes. Mais l'honnêteté intellectuelle qui me caractérise m'interdit de le faire. La dure vérité, c'est que la logique de cette prévision, c'était de s'attendre à beaucoup de volatilité au fur et à mesure que le consensus s'adaptait à la réalité. Or, il n'en a rien été. Les marchés ont été imperturbables. Pourquoi? Parce que la croissance des bénéfices a largement compensé les déceptions du côté de la politique monétaire. On peut s'en réjouir. Alors, maintenant, Bernard, reprenons un petit peu notre étude prospective de 2025. Où est le consensus? Comment pourrait-il être mis à mal? Chez Saint-Solonchamp, on avait identifié trois éléments du consensus. Le premier, dont on n'a pas du tout parlé, le premier, c'est est-ce que le consensus n'est pas trop négatif sur l'Europe et la zone euro? Est-ce que finalement, la zone euro, c'est pas la zone qu'on adore haïr en investissement. Pour autant, il y a deux choses qui pourraient nous redonner une petite lueur d'espoir, encore une fois, en relatif par rapport aux attentes. Hein. Je ne dis pas que l'Europe, c'est le nouvel Eldorado. Je dis juste que tout le monde est tellement sorti des actions européennes, tout le monde trouve tellement que tout va mal en Europe. On va juste regarder deux choses. Premièrement, la croissance en Europe. On a 1% de croissance, c'est pas mauvais. C'est pas la catastrophe et c'est surtout une croissance à laquelle nos entreprises ont été habituées. Donc, premier élément sur l'Europe, il n'y aura pas de chute de la croissance. On ne s'attend pas à une chute de la croissance au niveau européen global catastrophique. Deuxième chose, ce qui va se passer en Allemagne. En Allemagne, on a un nouveau gouvernement qui va être élu en début d'année et ce nouveau gouvernement, il va avoir énormément de marge budgétaire. Alors, On ne le souhaite pas, mais juste pour donner quelques ordres de grandeur, si l'Allemagne devait arriver au même niveau de dette que la France, ça serait 2100 milliards d'euros de budget supplémentaire possible. Alors, on ne leur souhaite pas d'en arriver là, ils n'en ont pas besoin, mais c'est juste pour vous dire que ce nouveau gouvernement, s'il veut améliorer son économie et sa demande intérieure, ils ont énormément de marge budgétaire pour le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on n'est pas trop négatif sur les actions européennes? Là encore, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une bonne surprise? Deuxième consensus qui mérite d'être challengé, c'est l'inflation aux États-Unis. Je vais être un peu plus dur et Bernard, encore une fois, vous avez été assez éloquent là-dessus. L'inflation américaine, le consensus, c'est qu'il n'y aura pas de résurgence de cette inflation. Nous, on pense que s'il y a un risque, c'est qu'effectivement, ce soit le contraire. On a une économie robuste. Cette économie, elle est stimulée par la baisse des taux qu'on a eue aux États-Unis et elle est également stimulée par l'effet richesse que les Américains ont via l'augmentation du S&P 500. Il faut voir que ces 2 années consécutives de hausse de plus de 20% du marché américain, lorsque vous êtes un épargnant et que vous regardez votre compte investi, comme tous les Américains, essentiellement en actions américaines, eh bien, vous ne pouvez pas ne pas vous sentir plus à l'aise et donc avoir un peu plus de confiance pour dépenser, consommer, etc. Et donc là, on pourrait avoir effectivement quelque chose qui serait contre le consensus, c'est-à-dire carrément un retour de l'inflation, une réaccélération de l'inflation avec une action de la Banque centrale américaine. Alors, Bernard, vous dites, on ne pense pas que la Banque centrale américaine remonterait ses taux d'intérêt. J'ai envie de dire, tout dépend. Parce que si on se retrouve avec une inflation, il ne faut pas oublier que l'inflation, c'est véritablement au niveau social un véritable poison. Il ne faut pas oublier que Biden a perdu quasi instantanément l'intégralité de la popularité qu'il avait lors de son élection. Pourquoi? Parce que les Américains, dès que ont associé Biden avec l'inflation et avec leur perte de pouvoir d'achat et avec ce sentiment de difficultés qu'ils avaient à gérer leur vie de tous les jours. Donc, l'inflation, c'est un combat que la Fed ne perdra pas. Ils sont également traumatisés au niveau de la Fed par l'épisode des années 80 où on avait eu une hausse des taux et puis après, l'inflation avait baissé, mais très, très temporairement, elle était repartie à la hausse de manière assez phénoménale. Donc, là aussi, point de vigilance, est-ce que l'inflation US va vraiment disparaître et rentrer dans le rang? Pas sûr du tout. Enfin, le troisième point, mais je le mentionne juste pour mémoire parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est les attentes sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, je suis absolument persuadé que c'est une véritable révolution. Maintenant, regardons les multiples de valorisation de titres comme la plus emblématique de toutes, Nvidia. Et on peut se dire que, voilà, quand on est sur ces niveaux de valorisation, est-ce que cette révolution, elle n'est pas déjà intégrée? Encore une fois, nous sommes dans un jeu relatif. Il ne faut pas que ces valeurs soient en croissance. Il faut que la croissance dépasse ce qui est déjà attendu par le consensus. Là où est le consensus, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà pour moi ces trois points. Moi, il ne me reste plus qu'à vous demander, bah, tout simplement, si vous êtes d'accord avec ces surprises potentielles pour 2025. Peut-être qu'il vous faudrait qu'on s'attarde un petit peu sur la première dont on a beaucoup moins parlé en début d'émission, à savoir, est-ce qu'on ne serait pas trop négatif sur les actions européennes?
Alors, merci pour ce point marché brillant comme d'habitude. Et en fin de compte, en vous écoutant, ben, je pense qu'on est vraiment sur le traditionnel des boursiers qui cherchent à comprendre à quel moment, par définition, les marchés ne sont pas efficients. Parce que s'ils étaient efficients, on aurait une équation et on ne serait même pas là à faire cette émission de radio. Donc, en fin de compte, la question qu'on se pose tout le temps, c'est à quel moment on va se rapprocher de la réalité ou à quel moment on va s'éloigner de la réalité. Et en se rapprochant ou en s'éloignant de la réalité, on va avoir une réalité financière qui va faire qu'on va être trop cher, beaucoup trop cher, extrêmement trop cher, énormément extrêmement trop cher, ou qu'on va être au bon prix, pas assez cher, trop bon marché, donné, jeté. En fin de compte, aux États-Unis, on a un sentiment de fête aujourd'hui. Et là, on est tous d'accord, c'est que la fête n'est pas finie, mais elle va finir. Et ce qu'on ne sait pas, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et franchement, croyez-moi, j'allais dire croyez-moi mon expérience, j'ai pas encore trop de cheveux blancs, mais ça peut durer. Ça peut vraiment durer, mais ça peut aussi s'arrêter dans 2 mois. Et maintenant, David, il nous dit le contraire pour l'Europe. Il nous dit, les gars, vous croyez pas qu'on a un peu exagéré là et que ça vaut quand même un petit peu plus cher? Et là encore, bah, en fin de compte, on ne sait pas. Non, on peut encore dire, regardez, c'est vrai que l'Allemagne, elle a tout ce budget, mais d'abord, bon, ne rêvez pas, hein. Les Allemands, ce n'est pas des Français, ce n'est pas des dépensiers. Hein. Ils vont pas sortir l'argent aussi facilement que ça. Mais non, on peut aussi voir, non pas du côté financier, mais tous nos problèmes qu'on a. On a un problème de défense. En fin de compte, on a un vrai problème d'Europe. On est au milieu du gué. On n'est pas. Une partie d'entre nous a vraiment envie d'avancer et de devenir européen. Une autre partie d'entre nous a peur. Elle est de plus en plus petite, cette partie, et veut retourner de l'autre côté. Et par contre, il y a une partie qui grossit. C'est des gens qui se disent, on n'est pas si mal au milieu du gué. Faisons-nous une petite île. Et ayons cet îlot et on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on récupère ça, on récupère ça, et on reste dans une espèce d'Europe non finie qu'on va essayer d'améliorer pour en faire ce qu'on souhaite comme Europe finie. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de réponse. Et les réponses, elles vont venir au fur et à mesure des événements. C'est-à-dire que si jamais la Fed donne des mots durs sur l'inflation, et un mouvement de taux qui s'arrêterait ou qui s'inverserait, on va tout de suite le voir sur les, on va tout de suite le voir sur les marchés. Si la politique de trend de la dérégulation fait monter les bénéfices, on n'aura besoin que d'un trimestre pour voir que la dérégulation fait déjà bouger certains bénéfices. Il y a des dérégulations qui peuvent aller très très vite, hein, sur des médicaments, sur des règles d'urbanisme ou des choses comme ça. Si jamais il passe et qu'il arrive à passer en force, parce que c'est simple, ça va très très vite et on peut retrouver du profit dès le trimestre prochain. Et c'est donc, on va donc avoir une situation qui n'est pas si mauvaise que ça pour l'année prochaine. On va piloter à vue en voyant ce qui se passe et en ayant la main. Et là où vous avez raison, David, on est tous un petit peu maintenant surexposés sur les marchés américains. Donc on va avoir la main sur quoi? Sur retirer de l'Amérique pour mettre de l'Europe, ou alors retirer de l'Amérique et de l'Europe en action pour mettre des obligations. Et on va être donc dans une année de pilotage à vue. Donc ce qu'il faut vraiment espérer, c'est qu'on ait un ciel clair, pas trop de nuages, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Allez, j'ai été un peu long, mais c'était important de tout répondre. On va laisser Romain enclencher son point de vue.
Merci. Alors sur l'Europe, malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner un point de vue intéressant. Mais c'est vrai que sur la partie de l'inflation aux États-Unis, effectivement, ça serait contre le consensus de voir cette inflation finalement augmenter. C'est vrai que l'effet richesse est important. C'est vrai que ce sont des très bons arguments. Et merci beaucoup encore, David, pour ce point marché qui est très intéressant. Je vous donnerai juste peut-être les éléments qui sont contre l'inflation. Contre une hausse de l'inflation, c'est qu'on a une Fed qui est contre l'inflation. Vous connaissez l'expression Don't fight the Fed. On a un Trump dont le principal programme, c'est de se bagarrer contre l'inflation. Voilà. Ensuite, on a le pétrole, qui est une grosse contribution de l'inflation, où on a une suroffre mondiale voilà, c'est un discours qu'on entend avec toutes les banques d'investissement qui vous pricent une baisse du prix du pétrole d'ici à fin 2025 entre 10 et 20% de baisse sur ce prix qui est quand même une grosse composante de l'inflation. Donc je dirais que sur ce point de vue-là, on a quand même des forces baissières assez importantes, sur l'inflation. À un moment où les taux sont historiquement hauts aux US. Et donc, je dirais que c'est quand même assez rare de pouvoir se positionner à un moment où on a un trigger quand même qui est assez clair devant nous, même si c'est vrai que ça peut avoir des surprises. Mais Voilà, on a aujourd'hui la chance de pouvoir se positionner sur des taux US qui sont historiquement hauts et sur laquelle il y a quand même des arguments assez forts en faveur d'une baisse d'ici à la fin de l'année. Et d'ailleurs, même si c'est sûr que le consensus a souvent tort, mais c'est vrai que quand on regarde toutes les prévisions de toutes les banques d'investissement et les économistes, on a quand même des prévisions, je parle des taux longs, hein, du 5-10 ans, je parle pas des taux court terme. Eh bien, on a des prévisions de légère baisse. Et je dirais que la position des taux qui restent élevés longtemps, donc le scénario higher for longer, est aussi pas plus mal, puisqu'on a des taux réels qui sont aujourd'hui de l'ordre de 2% aux États-Unis. C'est une situation qui est assez confortable et une marge de manœuvre qui est assez confortable aussi de s'y positionner quand on a des taux réels aussi intéressants, ce qu'on n'a pas eu encore une fois depuis plus de 10 ans. Voilà. Ça, c'était notre avis sur la deuxième partie.
Ok, Maël?
Je crois que c'est la dernière émission où on avait parlé de ça. Demain, il va y avoir trois blocs. Il va y avoir la Chine, ça va pas très bien. Il va y avoir l'Europe. Les deux locomotives, c'est la France et l'Allemagne. C'est pas la forme non plus, hein. En plus, ils ont pas de. Enfin, les gouvernements sont. Soit ils ont un gouvernement instable, soit ils ont un gouvernement qui va changer prochainement. Donc, votre idée, pour reprendre votre idée d'avoir une Europe, des pays choisis entre guillemets. Bah on n'y serait pas, hein. Clairement, la France, on ne serait pas dedans, personne ne va nous choisir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée pour nous. Et ensuite, vous avez les États-Unis. Alors, je ne suis pas particulièrement pro-Trump, mais en tout cas, la mission qui a été donnée à Elon Musk, elle va être, à mon avis, un peu sanglante de restructurer l'administration, mais ça va forcément diminuer les coûts. Donald Trump veut diminuer les impôts, donc ça va augmenter les recettes. Donc je pense que sur le papier, ça peut être que bon pour l'économie, pas forcément bon pour toutes les classes d'Américains, mais ça peut être que bon pour l'économie. Et quand on voit la différence déjà de le déclassement de l'Europe versus les États-Unis, bah je pense que ouais, les États-Unis, ils ont plutôt de beaux jours devant eux. Quant nous, l'Europe, il va falloir qu'on se réveille. Et aujourd'hui, si je devais choisir d'investir, j'irais pas en France. Moi, j'irais pas investir en France. J'irais peut-être regarder dans d'autres pays. Sachant que nous, on va être obligés encore de baisser les taux, alors que les Américains, je pense qu'on arrive au bout de l'histoire en termes de baisse de taux.
Alors, ça, c'est intéressant. Nous, on va être obligés de baisser les taux. Ça, j'en doute pas. Est-ce que les Américains arrivent au bout de l'histoire que s'il y a un petit peu de remontée d'inflation? Mais si l'inflation ne remonte pas, la Banque fédérale sait très bien que baisser les taux, c'est donner du pouvoir d'achat aux Américains. Elle sait très bien que c'est stimulant pour l'économie. Et donc, elle continuera à les baisser. Elle continuera à les baisser doucement, gentiment, mais elle le fera. Et elle aura les yeux rivés sur l'inflation. Là, je pense que c'est plutôt l'inflation.
Non, mais si on baisse les impôts, forcément, le pouvoir d'achat va augmenter. Je suis pas persuadé, il y aura peut-être encore une ou deux baisses de taux, mais ça va pas être aussi flagrant que ce dont nous allons avoir besoin en Europe, à mon avis.
Mais c'est surtout que la réactivité européenne. En fin de compte, la réactivité européenne, elle est moins forte que la réalité américaine. On s'en est rendu compte et on appuie, en fin de compte, on appuie là-dessus. Et c'est en appuyant là-dessus où on se convainc, nous, que c'est les autres qui ont raison et nous qui avons tort. Moi, globalement, ce que je pense, c'est qu'en réalité, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est que d'un côté, on a une Amérique dynamique, créatrice de solutions et qui se nourrit de capitalisme et de libéralisme. Et en Europe, malheureusement, c'est plus ça. Voilà. Le problème, il est vraiment là. La dernière fois, enfin, il y a quelques jours, j'écoutais des chiffres de Marc Poti qui disait que la moitié du budget, c'était des aides qui étaient données, mais il disait que la moitié du PIB, mais il disait, c'est pas ça qui est dramatique, c'est que le fonctionnement pour délivrer ces aides, ça représente 30% de ces 50%. Donc ça veut dire qu'on aurait, entre guillemets, une machine à aider avec 15% de frais de fonctionnement. Donc voilà. Et ça, si vous êtes président d'une association, ça peut être la prison. Hein. Ça peut être vite fait, bien fait, la prison pour détournement de fonds. Donc, voilà. Et on va arriver à la fin du... du point marché. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut le conclure, ajouter quelque chose?
Moi, je voulais vous remercier pour cette.
C'est
On arrive à
gentil, ça.
la fin. Vous êtes des bons camarades de jeu et bravo pour ce bon marché et bravo pour toutes les réflexions, Bernard, à chaque fois.
Ok, eh ben c'est super. Bah, on va conclure sur de tels mots parce qu'on n'aura pas mieux. Donc,
Merci
merci
Bernard.
à tous
Merci à
d'avoir
tous.
été parmi
Merci.
nous pour cette première partie de l'émission Parlons Patrimoine, dernière partie de l'année. Merci beaucoup, Romain. On vous dit à très bientôt. On se reverra
À
l'année
bientôt.
prochaine. David, on se reverra aussi l'année prochaine et tout au long de l'année. On verra si ces prévisions, si ces estimations, si ces idées étaient les bonnes idées et étaient le bon chemin. Maël, à très vite. Bonne fête de fin d'année. Et on se revoit aussi dès le mois de janvier pour la première émission.
Merci
Voilà.
Bernard.
Merci beaucoup. Et maintenant, on continue tout de suite avec Pierre-Olivier Desplanches d'Arginvest, également un habitué de l'émission et qui va venir nous parler du non-coté. Donc, Pierre-Olivier, je vous laisse faire un petit point d'introduction sur Archinvest, peut-être aussi un petit point d'introduction sur le non-coté pour bien le caler. C'est encore une classe d'actifs bien qui commence à être connue, mais qui est moins connue que le coté. Et ensuite, on enchaînera et on échangera ensemble sur les nouveautés d'Archinvest.
Bonjour Bernard, merci beaucoup. Effectivement, donc Archinvest, c'est une plateforme digitale d'investissement qui permet à des investisseurs particuliers à partir de 100 000 euros. Et quand on a déjà investi dans un autre fonds, on peut réduire le ticket d'entrée à 50 000 euros, on y reviendra. À des investisseurs donc qui, au travers de leur gestionnaire de patrimoine, vont pouvoir investir dans des fonds de private equity du premier quartile. C'est un petit peu la révolution qu'on vit aujourd'hui parce que historiquement, les grands fonds internationaux de private equity étaient financés exclusivement par des institutionnels sophistiqués qui étaient des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance ou des fonds souverains. Et là, en fait, on assiste à une ouverture de ces grands gérants vers cette population d'investisseurs particuliers. Alors, la question qui suit, c'est évidemment pourquoi? Eh bien, c'est principalement parce que depuis 25-30 ans, ces grands fonds de private equity sont financés que par ces institutionnels. Et donc, ils ont atteint une certaine part de marché chez ces gens-là. Et quand vous avez 25-30% de part de marché, vous savez, vous pouvez certainement encore gagner quelques points de part de marché, mais vous n'allez pas doubler votre exposition. Et donc, naturellement, vous cherchez à diversifier votre collecte de fonds. Et donc, vous allez vous tourner vers une population qui, en tous les cas, en Europe et en France en particulier, est peu ou pas exposée au private equity. C'est notamment les investisseurs particuliers. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle de notre point de vue, en tous les cas, nous qui sommes des spécialistes du non-coté, et j'y reviendrai, de pouvoir aujourd'hui proposer la même qualité de fonds, des fonds de qualité institutionnelle à des investisseurs particuliers qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès à ces fonds-là. Et donc, à la fin, vous êtes assis en tant qu'investisseur particulier à partir de 100 000 euros à la même table que des institutionnels qui vont investir 50, 100, 200 millions dans un fonds. Et ça, c'est quand même complètement nouveau.
Alors, bon, déjà, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le temps du lancement de LBO1, donc en fin de compte, le fonds principal sur lequel s'est créée l'entreprise, que vous allez décliner en deux et probablement en trois, en quatre, en cinq, en six au fur et à mesure du temps. Déjà, un petit peu de nouvelles de ce fonds LBO1. Est-ce qu'il est fini, bouclé? On ne peut plus en acheter? Des investissements ont commencé? Quelle est la répartition entre le cash que vous avez à investir? Le cash que vous avez promis, le cash qui vous reste d'investir. Enfin, voilà, un petit pitch pour ceux qui ont investi pour savoir un petit peu où on en est avant de recevoir la lettre de fin d'année qu'ils recevront en janvier-février.
Alors, effectivement, c'est une bonne introduction sur ce qu'on propose aujourd'hui. Nous, on propose l'ensemble des stratégies du non-coté. On est des spécialistes du non-coté, mais ça ne veut pas dire qu'on propose toutes les stratégies en même temps. Le LBO, c'est clairement une stratégie qu'on va vous proposer tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie reine du private equity. C'est une stratégie qui surperforme les autres classes d'actifs, quels que soient les cycles économiques. Il y a des raisons à ça. La raison principale, c'est un alignement d'intérêts financiers très fort entre les équipes de management qui, quand vous montez une opération de LBO, vous allez leur demander d'investir jusqu'à 50% soit de leur patrimoine, soit du montant net qui vont sortir de l'opération de LBO précédente. Donc, ce sont évidemment des montants très importants que naturellement l'équipe de management n'investirait pas lui-même. Et vous avez l'équipe de gestion du fonds qui, elle aussi, va investir un montant très significatif de son patrimoine dans le fonds, donc indirectement dans la société. Et c'est cet alignement financier d'intérêt qui crée forcément un esprit d'équipe pour que chacun court le plus vite possible pour créer de la valeur. Et si jamais l'environnement est un peu plus compliqué, ça crée des cordes de rappel extrêmement puissantes. Donc c'est pour ça que, quels que soient finalement les cycles économiques, eh bien, les sociétés sous LBO surperforment les autres sociétés. Mais là, il y a clairement une fenêtre d'opportunité qui est, de notre point de vue, encore meilleure, parce que après plusieurs années de taux d'intérêt négatifs ou nuls, où l'argent coulait à flot, finalement, les valorisations étaient quand même très soutenues. Là, on rentre dans une phase où les taux d'intérêt ont augmenté, même s'il y a une correction récemment qu'on vit, elle était prévue. Mais tout le monde s'attend à ce que le niveau absolu des taux d'intérêt reste plus élevé, évidemment, que la période qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça discipline beaucoup le marché parce que, eh bien, les valorisations qui sont payées aujourd'hui par les fonds sont beaucoup plus, entre guillemets, raisonnables. Et du coup, quand vous êtes un fonds qui déploie, comme ça a été le véhicule 1, Arch Invest LBO 1, donc vous aviez des fonds qui étaient enlevés, donc qui ont commencé à déployer, eh bien, vous commenciez à investir votre portefeuille dans un marché qui avait corrigé en termes de valorisation. Ça, on voit bien que ça se poursuit encore aujourd'hui. On a toujours un niveau de valorisation qui est beaucoup plus attractif qu'au cours des qu'il y a 4 ou 5 ans sur la même société. Pourquoi? Parce que, eh bien évidemment, vous mettez de la dette, vous avez des banquiers de dette qui sont plus frileux ou des fonds de dette privés qui vous demandent un peu plus d'intérêt. Et donc, les valorisations restent très attractives dans ce marché, y compris donc pour le véhicule 2, effectivement, que tu mentionnais. Donc, sur le véhicule 1, effectivement, il est complètement fermé dans le sens où les fonds qu'on a accompagnés ne sont plus ouverts à la souscription. En tous les cas, nous, on a atteint notre objectif qui était à peu près de 25% par gérant pour être à peu près prépondéré sur chacun de ces gérants, sur à peu près 70 à 80 sociétés. Et il est déjà déployé en partie, près de 45-50% du fonds est déjà déployé. Donc, ça veut dire qu'il reste encore, évidemment, à déployer, mais qu'on a déjà une liste relativement longue de sociétés qui ont été accompagnées par ces fonds et qui sont reprises dans les reportings qu'on vous présente chaque semestre pour vous expliquer un petit peu pourquoi le fonds a acheté cette société, qu'est-ce qu'elle fait, que veut-il en faire et quelle est la performance atteinte de ces sociétés. Alors, comme vous le savez,
Alors, attendez,
le
je vous interromps là parce que on va un petit peu avoir une question. Alors, je veux pas non plus qu'on passe trop de temps sur ce fonds parce qu'on a une actualité assez riche. On a à peu près 50% qui seront investis au 31-12 puisqu'il y a un appel qui est en cours d'à peu près 20%. Et juste une question. J'ai l'impression que c'est un peu plus vite que d'habitude. Ou est-ce que c'est normal? Parce que 1 an, 50%, ça me paraît beaucoup.
Non, parce qu'il y a des gens qui étaient rentrés déjà l'année précédente. Donc, on a fermé le fonds effectivement en septembre, à un moment où il y avait déjà des gens qui étaient rentrés l'année d'avant. Donc, c'est plutôt un rythme normal, mais qui on aurait pu imaginer être plus court parce que, comme vous le savez, vu qu'il y a beaucoup de vendeurs dans des fonds qui se disent le marché n'est pas forcément attractif pour sortir, eux, ils sont rentrés en 2019, 20, 21 à des valorisations un peu plus soutenues. La difficulté pour les fonds aujourd'hui qui lèvent de l'argent et qui cherchent à investir, c'est de trouver effectivement des vendeurs parce que ils ont beaucoup de vendeurs qui disent, nous, on va garder, on va continuer à faire des acquisitions vu que le marché est raisonnable en prix, plutôt que de revendre tout de suite. Ça fait un très bon lien sur la deuxième stratégie dont on parlera peut-être, qui est le secondaire. Mais donc, ils sont plutôt en ligne avec le rythme classique qui est à peu près 4 à 5 ans pour déployer l'argent, mais effectivement, ils ne sont pas du tout en retard, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, vu que c'est difficile de trouver des vendeurs qui cherchent à vendre aujourd'hui.
Alors, quand on a préparé l'émission, j'ai bien sûr fait état de la concurrence. Vous étiez un petit peu novateur, pas beaucoup de temps, puisque très rapidement vous avez été suivi. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, je ne veux pas être méchant, mais que il y a n'importe qui et tout le monde qui vend du private equity, ça se lève de tous les côtés. Donc des gens très sérieux qui n'en faisaient pas, qui viennent à en faire et qui sont très très réputés, très sérieux sur d'autres choses. Des gens qui n'en étaient pas très loin et qui arrivent, des gens sortis de nulle part qui en font. Alors, je ne veux pas dire de mal, hein, peut-être que sortis de nulle part aussi, c'est beaucoup d'expériences cachées et de choses comme ça. Et vous m'aviez dit quelque chose, et vous m'avez dit, c'est un métier comme un autre, il faut une vraie expérience, il faut être un vrai spécialiste. Et quand vous sortez un petit peu des marques, vous, Bernard, vous me disiez, attention de ne pas confondre une marque avec un fonds. Et là, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu, un petit peu ça pour expliquer que ce marché, il a quand même des vraies règles Et c'est pas on met un ticket, on s'en sort bien et on gagne des sous.
Alors déjà, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que une industrie où vous n'avez pas de concurrents, bon, c'est que vous êtes peut-être trompé de dynamique. Là, effectivement, on voit, vu le nombre de concurrents que tu mentionnais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient à cet avenir, et nous, on en est persuadés. Il n'y a aucune raison que des investisseurs particuliers puissent pas bénéficier d'investissements de nos côtés. Aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus avancé que le nôtre, le gouvernement américain recommande d'avoir 25% de son patrimoine, hein, en tant que salarié, dans du private equity. Évidemment, aujourd'hui, en Europe et en France en particulier, on en est très, très loin. Même si on arrivait à la moitié du chemin, ce serait déjà un changement radical dans les portefeuilles. Mais effectivement, il y a un point qui est fondamental, qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez plus de 10 000 fonds dans le monde, et tous ne performent pas de la même façon. Le marché, sur une période, il rend à peu près 12 ou 13% net par an aux investisseurs, mais les meilleurs fonds vont rendre 20%, voire plus, à leurs investisseurs. Donc, vous avez des fonds, évidemment, qui vont rendre un chiffre. Et c'est surtout que, comme tu le disais, une marque, ça ne veut pas dire grand-chose. De dire, par exemple, que Carlyle, c'est bien, KKR, c'est bien, Blackstone, c'est bien, ce sont des plateformes qui gèrent des dizaines de fonds. Donc, en fait, sur ces plateformes, vous avez des fonds qui peuvent être très bien et d'autres qui ne sont pas forcément des fonds recommandables. Donc, c'est vrai que on ne peut pas se cacher derrière une pancarte en se disant, ah bah ça c'est connu, tiens, Eurazeo, c'est un fonds qui est là depuis 100 ans, donc c'est forcément bien. Il faut faire l'analyse fonds par fonds parce que vous avez des équipes dans chaque fonds, et la performance d'un fonds, et en tous les cas la performance à venir, elle va beaucoup dépendre de la dynamique interne de l'équipe. Et donc c'est pour ça que chez Arch Invest, en fait, on ne vend que du private equity parce que c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Moi, j'ai passé plus de 20 ans dans cette industrie, près de 25 ans. J'ai notamment passé près de 20 ans chez Carlyle, donc en tant qu'investisseur dans le LBO, et c'est la même chose pour mes associés. Et donc, du coup, nous, on s'est spécialisé dans le private equity parce que vendre d'autres produits, on ne les a jamais fait, on ne serait pas pertinent. Si je vous recommandais des fonds actions ou des produits structurés, j'en ai jamais fait, ça se verrait très vite que j'ai aucune expérience et que je ne peux pas vraiment vous conseiller de façon très, très sérieuse. Mais par contre, le private equity, c'est ce qu'on a fait. On se rend compte qu'effectivement, eh bien, un fonds, ce n'est pas uniquement une performance historique, parce que ça, à la limite, tout le monde pourrait le faire. Il suffit d'acheter la bonne base de données et vous sauriez que tel fonds a délivré une très bonne performance. C'est vraiment avoir un ensemble de critères et une approche multicritère, parce qu'il y a effectivement la performance passée. Mais si je vous sélectionne un gérant qui a rendu trois super millésimes et que j'oublie de vous dire que la dynamique interne est plus très bonne et que soit ils vont s'en aller pour monter eux-mêmes leur fonds, ou soit que l'équipe s'entend plus très bien et qu'elle n'investira pas votre argent, eh bien, on est passé à côté du point essentiel. Et ça, évidemment, personne ne vous le dit. Quand vous interviewez les gérants, personne ne va vous dire, sache que dans 6 mois, je pars avec la moitié d'équipe pour lancer mon propre fonds. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir fait ce métier, d'être du CERAI, parce que vous allez avoir des grandes antennes, un réseau qui vous permet d'avoir accès à des informations qui sont fondamentales et que, évidemment, on n'aura pas accès, dont on n'aura pas accès facilement. Et l'autre point, c'est que bah finalement, quand vous regardez l'évolution de ces fonds sur très longue période, si vous me demandez la liste de mes Top Gun, les 5 meilleurs fonds européens en 2005, ce serait pas la même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez eu des changements d'équipe, des nouvelles équipes n'ont pas forcément pris le relais des nouvelles dans de très bonnes conditions. Et donc, du coup, on peut pas se dire, bah ça, c'était un super fonds il y a 10 ans et ça continuera à être un super fonds. Il faut à chaque fois faire une analyse propre à chaque équipe. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, et je dirais, d'être fondamental d'avoir fait ce métier. Quand vous regardez l'ensemble des gens qui aujourd'hui vous proposent du private equity et que vous regardez les CV des gens qui sont derrière, eh bien, vous voyez qu'il y a quasiment personne, hein, il y a deux acteurs principaux dont nous, qui venons du private equity, qui avons fait ce métier de l'intérieur en tant qu'investisseur.
Plaidoyer pour mon métier, j'aurais appelé ça. Alors, et après, il y a aussi une question qui revient extrêmement souvent, je voudrais qu'on la traite ensemble. Et ensuite, on parlera de vos deux offres du moment que vous mettez en avant. Il y a un concept qu'on appelle le concept d'auto-alimentation entre les remboursements et les apports qui font un petit peu tourner ou qui feraient tourner une somme dédiée à cette catégorie d'actifs. C'est là que je voudrais qu'on en parle. Et il y a aussi ces histoires de minimum où il y a du légal, il y a du supposé légal, il y a du plus ou moins légal, il y a de l'exception, il y a des choses comme ça. Et à la fin, il y a ce que vous décidez dans le cadre de la loi. Et ma question, elle est, bon, là, je vais un petit peu faire la réponse à votre place. Vous avez décidé de garder un minimum plus élevé que le minimum légal. Quand on a préparé l'émission aussi, vous m'avez dit que vous n'aviez pas souhaité avoir l'agrément permettant de distribuer, comme certains de vos confrères, à partir de 1 000 ou 2 000 euros. Est-ce que c'est pertinent dans une optique de logique, et puisque vous vous définissez vous-même, vous, comme une plateforme digitale? Donc aujourd'hui, les plateformes digitales, ben justement, c'est comme tout est digitalisé, on n'a plus ce coût humain qui faisait qu'un dossier en dessous de X dizaines de milliers d'euros, c'était pas intéressant. Voilà. Donc, juste de nous décrire votre situation d'aujourd'hui, peut-être même si vous pensez déjà à un petit peu d'avenir, à bouger des choses ou à faire évoluer, et voilà, qu'on comprenne bien votre positionnement, pas assez rapidement, et après on passera à vos deux offres 2025.
Effectivement, je pense que c'est lié à notre positionnement. Nous, on a un positionnement, on adresse des tickets à partir de 100 000 euros ou plus. Comme je l'ai dit, réglementairement, on peut baisser le ticket autour de 30 000 euros quand quelqu'un a déjà investi dans le fonds. Nous, on a fixé la barre à 50 000 euros. Mais c'est vrai que on n'a pas un agrément pour descendre avec des tickets à 2 000 euros, 3 000 euros. C'est un choix. Nous, on adresse une population avec une offre qui est de grande qualité, donc on a un positionnement résolument haut de gamme. Et du coup, quand vous regardez les offres de private equity qui sont proposées avec des tickets beaucoup plus accessibles, type 1 000 ou 2 000 euros, c'est souvent dans le cadre d'une assurance vie française. L'assurance vie française vous impose que chaque appel, en fait, soit appelé en totalité. Donc, si vous investissez 30 000 euros, vous allez avoir les 30 000 euros qui vont être appelés, alors que le fonds va déployer au fur et à mesure. Un fonds de private equity s'investit sur 4 à 5 ans. Donc, pour pas abîmer la performance, ben, vous devez avoir des appels différés, ce qu'on fait nous-mêmes, et ce qui n'est pas le cas dans l'assurance vie française. Donc, c'est aussi parce que bah, vous avez des qualités de fonds qui seront différentes, des rendements attendus qui ne seront pas les mêmes. Nous, effectivement, on s'adresse à une population qui va chercher des rendements les plus élevés possibles avec finalement cette prise de risque très modérée quand on diversifie sur plusieurs gérants, comme c'est dans le cas de nos multifonds, et qu'on fait une sélection sur chacun de nos gérants. Alors, effectivement, la première question qui portait aussi sur les appels, ce qui est intéressant dans Private Equity, c'est que quand on a une approche où on se dit, bon, bah, finalement, j'ai envie d'investir dans cette classe d'actifs, c'est forcément du moyen ou du long terme. Vous avez des retours d'argent, effectivement, une fois que les sociétés sont vendues. Alors, dans le LBO primaire, comme on va en parler, c'est l'argent travaille 4 à 5 ans dans les sociétés. Donc, au bout de 4 à 5 ans, vous pouvez décider bah, soit de récupérer l'argent et l'utiliser, soit de le recycler dans de nouveaux produits d'investissement. Il y a des gens qui nous disent, moi, c'est une poche d'argent dont j'ai pas besoin, je veux la faire fructifier au meilleur rendement avec sur une très longue durée. Donc, il y a un effet boule de neige. Si au bout de 4 ans, 5 ans, vous réinvestissez votre argent à 15 ou 20% net de frais, eh bien forcément, pour une retraite ou pour une transmission, ça fait un volume important. D'autres peuvent nous dire, moi, j'ai besoin d'une vélocité du capital plus forte, et c'est pour ça qu'on a développé d'autres stratégies, type le secondaire, dont on peut parler aussi maintenant, si c'est le.
Alors, on a maintenant, rapidement, parce qu'on a pris du retard, donc on a une offre secondaire et l'offre LBO 2. Je voulais aussi qu'on parle des thématiques, mais on ne va pas en parler et on gardera ça pour l'année prochaine. Donc, rapidement sur LBO 2, puisque j'ai l'impression, vous nous confirmez que c'est que la suite du LBO 1, et ensuite on se concentre plutôt sur le secondaire.
LBO2, c'est comme je vous le disais, on vous proposera toujours du LBO parce que au-delà du fait qu'il y a une fenêtre d'opportunité, c'est une stratégie qui délivre une performance très élevée qu'est-ce que sur les cycles économiques parce que vous avez cet alignement fort d'intérêt. Là, c'est quatre fonds du premier quartile qui sont sur un positionnement qu'on qualifie de mid-cap, donc des fonds peut-être un petit peu plus petits que les fonds du premier millésime. L'avantage, c'est que bah, ils ont une performance plus élevée parce que ils sont plus agiles. Ce sont clairement des fonds qui sont établis depuis de nombreuses générations. Certains sont établis depuis 99 ou 2002, donc toujours beaucoup, beaucoup d'expérience autour de la table. Mais effectivement, peut-être un peu plus d'agilité. L'inconvénient, c'est que bah, quand vous connaissez mal ce marché, il est plus profond que le marché large cap, donc vous avez un écart type des performances par rapport à la moyenne qui est plus élevée. Donc là encore, le fait d'être expert sur cette classe d'actifs va aider à sélectionner les bons gérants parce que on peut plus facilement se tromper que quand on prend que des grandes marques qui gèrent des très gros fonds de 7 milliards ou plus. Sur la stratégie, donc ça c'est un produit qui a été commercialisé au Q4, qui va être commercialisé toute l'année 2025 et le premier closing aura lieu fin janvier 2025. Donc premier closing pour les gens qui rentrent à ce moment-là, il n'y aura pas de prime de souscription. Et c'est un produit qui va rendre, enfin, qui vise en tous les cas, pardon, sur la base de l'historique, il vise autour de 18% net dans la poche de l'investisseur chaque année, donc post-frais.
Alors, juste pour résumer, premier closing fin janvier 2025, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout à fait.
D'accord. Et produit ouvert jusqu'au 31-12.
C'est ça. Donc, il y aura plusieurs closings après, comme ce qui sera le cas pour ces fonds.
D'accord. Donc, on va
Donc, ouais,
closer au
c'est
fur et à
fait.
mesure de l'année
Exactement.
et faire ça. Et donc là, juste maintenant, c'est important donc pour ceux qui nous écoutent. Donc, s'ils ont mis 100 000 ou plus sur le LBO 1, ils pourraient souscrire éventuellement qu'à 50 000 euros,
Exactement.
bien sûr s'ils veulent, mais leur minimum est maintenant 50 000 euros sur le LBO 2, c'est ça?
Tout à fait.
Ok, super. Allez, on a bien compris. 2 minutes pour le marché secondaire, pas plus.
Ouais. Le secondaire, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Bah, c'est le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Vu que les taux d'intérêt sont plus élevés qu'ils n'étaient, certains fonds se disent le marché n'est pas forcément très attractif, donc ils gardent plus longtemps. Donc vous avez des institutionnels comme des AXA, par exemple, qui ont investi dans des fonds et qui devaient récupérer des distributions parce que les fonds étaient censés vendre leur participation au bout de 4 à 5 ans. Donc là, on parle des millésimes, comme je disais, 19, 20, arrivent à maturité pour les premiers deals. Eh bien, donc vu qu'ils ne trouvent pas de disponibilité de liquidité auprès des fonds, ils vont chercher sur un marché qu'on appelle le secondaire, et donc ils vont voir des fonds qui sont spécialisés pour leur racheter les parts qu'ils ont dans des fonds. Donc vous avez des gens comme AlpInvest, BEX ou Glendower qui font partie de notre fonds qu'on a sélectionné parce qu'ils sont très complémentaires et qui vont analyser par exemple le portefeuille d'AXA qui sera peut-être chez PAI, chez EQT, chez KKR, chez Blackstone, et ils vont faire un prix. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre cette demande d'investisseurs institutionnels qui ne trouvent pas de liquidité auprès des fonds et qui vont les trouver sur le marché secondaire, qui dépasse la capacité d'absorption de ces fonds secondaires. Donc vous avez accès à des décotes très élevées. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une activité très, très importante sur le secondaire. La deuxième jambe du secondaire, c'est racheter les meilleures sociétés des fonds parce qu'un fonds peut ne pas avoir envie de se séparer d'un actif superstar. Et donc, il peut convaincre aussi un acteur du secondaire en lui disant ben, rachète-le-moi dans un fonds dédié. Et c'est ce que propose de faire le fonds secondaire parce que comme ça, le fonds peut rester exposé à cet actif-là. Donc ça, c'est une deuxième jambe qui représentera à peu près la moitié de deux des acteurs qu'on a sélectionnés et le troisième ne faisant que la première partie, pour avoir quelque chose d'équilibré. Ça va évidemment plus se développer dans les années qui viennent parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une baisse des taux qui a déjà commencé et qui va forcément, il faut être honnête, réduire le niveau de décote. Il y en aura toujours, mais là, elles sont spécialement élevées. Donc à la fin, vous êtes finalement investi sur deux jambes, des portefeuilles décotés et les meilleures sociétés des fonds de private equity. C'est un fonds qui…
J'ai une question là, excusez-moi de vous interrompre. Souvent, quand on achète avec une décote, quoi que ce soit un actif comme celui dont vous nous parlez ou quoi que ce soit d'autre, on a d'abord l'impression de faire une bonne affaire. Ensuite, on se rend compte que si on a acheté avec une décote, elle était justifiée et qu'en fin de compte, on n'a pas fait une bonne affaire, on a acheté au juste prix. Et malheureusement, quelquefois, on se rend compte que malgré la décote ou malgré la solde ou malgré le discount, on a en fin de compte acheté un peu plus cher que ce que ça aurait vraiment valu. Est-ce qu'on n'a pas à craindre, ou en tout cas à mettre sous très haute surveillance, peut-être cet effet d'espèce de retour de bâton, que si les gens vendent pas cher, et ce n'est pas une bonne affaire et ce n'est pas entre guillemets la fête au slip, c'est parce qu'il y a des vraies raisons pour vendre pas cher et que ça vaut pas plus.
Alors ça, c'est valable si vous faites un deal en gré à gré, vous n'êtes pas habitué à le faire, vous n'avez pas de point de comparaison et donc parfois, effectivement, vous pensez que c'est une bonne affaire et puis vous découvrez peut-être que bah, finalement, ce n'était pas une si bonne affaire que ça. Là, vous avez affaire à des fonds, que ce soit les fonds qu'on a sélectionnés ou les fonds du marché, dont le métier, c'est de gagner de l'argent en achetant des portefeuilles avec une décote et en les revendant, évidemment, à un prix de marché plus élevé parce que la société a continué à s'apprécier dans le portefeuille du fonds. Donc tout le travail, il est là. C'est estimer par rapport à l'objectif de rendement que vous visez, le prix que vous devez payer pour pouvoir atteindre votre rendement. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui auront une analyse différente, qui vont dire, bah, si ce prix-là, moi, ça m'intéresse, et d'autres qui se diront, bah, non, moi, ça m'intéresse pas parce qu'il y a une prise de risque trop élevée ou la probabilité de rendre l'objectif de rendement que je vise n'y est pas. Et donc, c'est toujours pareil, c'est sélectionner les meilleurs fonds qui ont le plus l'habitude de faire ça et qui savent le faire. Et quand vous regardez le marché du secondaire, quand je suis arrivé chez Carlyle en 99, c'était epsilonesque. Aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est un marché qui s'est beaucoup, beaucoup développé. Donc, si à la fin, les gens étaient déçus par les performances, bon, bah, forcément, ils ne seraient pas retournés sur ce marché. Donc, clairement, quand on sait, là encore, sélectionner les gérants dont c'est le métier d'aller analyser la vraie valeur du portefeuille, en tous les cas, la valeur qui permettra d'atteindre le rendement qu'ils attendent à la sortie, eh bien, on arrive à atteindre des rendements très élevés. Et l'intérêt aussi de cette stratégie pour les investisseurs, c'est que vous êtes très diversifié parce que vous allez être sur à peu près 5 000 sociétés dans le cadre d'un fonds de fonds comme le nôtre et vous avez des retours d'argent très rapides. Pourquoi? Parce que certaines sociétés ont été achetées par les investisseurs institutionnels il y a peut-être 3-4 ans. Donc, elles ont déjà 3-4 ans d'ancienneté dans le portefeuille. Et quand vous le rachetez, ben finalement, 6 mois ou un an plus tard, vous pouvez déjà avoir des fonds qui vendent ces sociétés. Donc, vous avez des retours d'argent très rapides dès la première année, ce qui est une différence aussi avec le LBO primaire de notre Archinvest LBO.
OK. Alors, en 30 secondes, juste toujours sur ces réductions. Donc, quelqu'un qui a souscrit au LBO 1 peut bien entendu, ça on l'a vu ensemble, acheter de LBO 2 à 50 000, mais il peut aussi acheter le secondaire pour 50 000.
Exactement, tout à fait.
Et quelqu'un qui ferait maintenant, qui n'était pas encore client, mais que vous avez convaincu, pourrait très bien dire, je vais prendre du LBO 2 pour 100 000 et du secondaire pour 50 000. Même si l'achat est quasiment concomitant.
Tout à fait, Bernard. Ça
Voilà.
permet
Mais
effectivement à
écoutez,
des gens
il me
qui
reste
sont
plus qu'à vous
investis
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année avec un petit peu d'avance et à vous dire qu'on est prêt à vous recevoir l'an prochain avec encore des nouveautés, j'espère, peut-être un
On aura.
développement thématique qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Ici, et surtout de suivre et de voir comment vont se passer les fonds qu'on a proposés, sur lesquels on a expliqué, ou peut-être même vous avez encouragé les gens à y aller. Merci beaucoup,
Avec plaisir.
Pierre-Olivier,
Merci
et à
Bernard, à très
très
bientôt.
bientôt.
Merci, au revoir, bonne fête.
Au revoir. Et maintenant, c'est au tour de notre surprise de cette émission. Donc, on quitte la finance, on quitte le monde du patrimoine financier en tout cas, et on va se concentrer sur le patrimoine du corps, notre patrimoine individuel qu'on a tous. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir Alexandre Calamaro. Alors, on ne quitte pas 100% le monde de la finance parce que son père est financier. Donc, on y reste quand même un petit peu raccroché. Alors, bonsoir Alexandre. Donc vous avez grandi au Royaume-Uni, votre père est français, votre mère est chilienne, ils vivent à Lisbonne, vous avez décidé de venir les rejoindre à Lisbonne pour vous rapprocher de la famille. Mais avant ça, vous avez fait un master en ostéopathie à BCOM en Angleterre, 4 ans d'études très sérieux. Vous avez 4-5 ans d'expérience aussi en Angleterre et vous vous êtes dit, allez, je me lance. Je m'installe à Lisbonne. Voilà, là j'ai mis 30 secondes, je vous ai fait 8 ans de vie, si j'ai bien l'impression. On va reprendre le temps de parler de tout ça et vous allez nous expliquer. Allez Alexandre, c'est à vous.
Bonjour Bernard, alors merci beaucoup de m'avoir invité. Donc oui, c'est exactement ça. Je suis à Lisbonne depuis janvier, depuis le début de cette année, et j'ai pu ouvrir mon cabinet il y a un peu moins d'un mois. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Je suis très heureux. Une qualité de vie assez différente à celle de Londres. Depuis qu'on a encore le soleil en décembre, c'est assez exceptionnel. Oui.
Alors, on va commencer tout de suite. Ostéopathie. Donc, vous êtes ostéopathe, vous pratiquez l'ostéopathie. Ça, c'est simple pour tout le monde. On va essayer de définir exactement ce que c'est l'ostéopathie. Et ensuite, on va voir quelles sont un petit peu les différentes formes d'ostéopathie et laquelle vous pratiquez. Alors, l'ostéopathie, c'est quoi?
Alors, l'ostéopathie, c'est une médecine alternative, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de médicaments ou de substances chimiques, donc tout ce qui est pharmaceutique, on met de côté. Et l'ostéopathe, en fait, utilise juste ses mains pour soigner le corps. Donc, en fait, comme les kinés, les chiropracteurs, ce sont une thérapie manuelle, mais ce qui nous différencie des physios, des kinés et des chiropracteurs, c'est qu'on a une approche holistique, c'est-à-dire qu'on voit le corps en entier comme une seule unité.
Alors, ça revient à quoi? Est-ce que, comme un kiné, vous massez?
Alors, en tant qu'ostéopathe, oui, on masse, on emploie plusieurs techniques, que ce soit des massages sur tout ce qui est muscles, sur tout ce qu'on appelle tissu mou. On peut aussi utiliser des mobilisations, c'est-à-dire qu'on fait bouger les articulations qui peuvent être restreintes dues à plusieurs choses, à plusieurs facteurs.
C'est un
Et
peu comme un
aussi,
chiropracteur, alors.
donc il y a ça. Et en fait, ce que les gens appellent, c'est faire craquer. Donc en fait, Les gens disent craquer les os, mais un os craqué, c'est une fracture, donc on fait sûrement pas ça. Donc en fait, ce qu'on manipule, ce qu'on ferait craquer, ce sont des articulations restreintes. Et en fait, quand on fait ce genre de technique, il y a deux choses qu'on essaie de promouvoir, c'est de retrouver l'amplitude du mouvement et ensuite de diminuer la douleur.
D'accord. Donc, là, on est à la deuxième technique. Il y a une troisième technique dans cette approche holistique qui va essayer de prendre le patient dans sa totalité, dans son intégralité.
Alors, c'est là où vous avez dit qu'il y a plusieurs techniques en ostéopathie, c'est plusieurs approches, c'est qu'on peut aussi utiliser des techniques sur tout ce qui est viscéral, donc tout ce qui va avoir avec les organes, parce que ce sont aussi des genres de tissus. Et dans ce monde, malheureusement, il y a encore des gros problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Et tout ça va avoir un effet sur nos organes et aussi sur notre style de vie. Et donc, on peut avoir aussi un impact sur tout cela. Quand les gens viennent nous voir, s'ils ont des problèmes à l'estomac, au foie, ou même au poumon, au diaphragme, etc. Donc,
Et
on va
là
pouvoir
aussi, ça va être par manipulation.
C'est exactement ça. Ça va être par manipulation, oui. C'est
Voilà.
exactement ça.
Alors, bon, dans toute activité, il y a un côté psy, c'est-à-dire que dès qu'on est dans la relation entre des êtres humains, bon, il y a un côté psy, un côté émotionnel qui se met en place. Est-ce que dans la pratique de l'ostéopathie, c'est secondaire, accessoire, ou alors est-ce qu'il y a ce côté psy, échange verbal, échange de compréhension, échange d'émotions, assumé et formalisé?
Alors, c'est pas du tout au second degré, c'est absolument intégré parce que comme vous avez dit avant, l'ostéopathie, on observe tout, donc c'est pas seulement le côté physique, mais le côté émotionnel, spirituel, mental. Donc même si l'ostéopathe n'est pas diplômé comme un psychologue ou un psychiatre, on ne peut sûrement pas négliger tout l'aspect psychologique. Parce que évidemment, il y a un énorme impact sur notre style de vie à propos de ça. Absolument.
D'accord. Et entre les ostéopathes, il y a des différences. Il y a vraiment des catégories d'ostéopathes et certains qui adhèrent à une théorie, d'autres, par exemple, qui pourraient ne pas adhérer à cette théorie. Ou est-ce qu'il y a un vrai socle commun et après il y a quelques petites différences? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment classifié et avec des noms pour chaque adepte d'une forme ou d'une autre de théorie?
Oui, alors l'ostéopathie en soi, c'est quelque chose déjà très spécialisé dans la médecine alternative. Mais en soi, il y a encore plus de spécialités. Donc, on peut se spécialiser dans tout ce qui est pédiatrie, donc traiter les nouveau-nés, les enfants, les adolescents. On peut se spécialiser dans tout ce qui est gériatrique, donc les personnes âgées. D'autres se spécialisent dans le sport, d'autres se spécialisent aussi chez les femmes enceintes. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui utilisent, comme moi, l'approche holistique parce que c'est ce qui nous définit contrairement aux autres thérapeutes manuels. Mais il y a, dans certains cas, des ostéopathes qui n'utilisent pas cette approche parce que ils ne veulent pas ou ils ne l'utilisent pas, tout simplement.
D'accord. OK. Donc, vous m'avez dit que vous vous êtes installé aux Amoreras,
C'est
donc
exactement ça, oui.
le quartier des affaires, le quartier du lycée français. Bon, un bon quartier. Vous exercez à plein temps? Vous avez déjà assez de patientèle pour exercer à plein temps ou vous avez démarré votre activité sur des plages horaires plus courtes?
Alors j'ai démarré plein temps. J'ai démarré il y a un peu moins d'un mois, donc presque 3 semaines. Donc évidemment, ça va mettre un peu de temps à apprendre, mais comme je suis en face du lycée français. Et surtout dans une partie où il y a beaucoup, beaucoup de francophones, non seulement des francophones, mais aussi beaucoup d'anglophones. Il s'agit juste de pouvoir me présenter un peu partout et ensuite, bien évidemment, attirer de la clientèle.
D'accord. OK, super. Mais écoutez, on vous souhaite bonne chance. On vous
Merci
dit
beaucoup.
à bientôt. On essaiera de se revoir en 2025. On verra comment tout ça a évolué, comment tout ça a avancé. Donc, on est à la radio. Donc, on ne va pas donner votre numéro de téléphone. Ça ne sert pas à grand-chose. On va répéter votre nom, Alexandre Calamaro. Donc, en allant sur Google, je pense qu'on vous trouve très rapidement. Alexandre Calamaro, ostéopathe Lisbonne. ça doit
C'est ça.
ressortir en
Oui,
premier.
le site s'appelle Calamaro Practice.
Calamaro Practice, Practice, enfin voilà.
Voilà.
Donc, comme vous voulez, en tout cas, retenez le nom, Alexandre Calamaro, Lisbonne, ostéopathe, et Google vous dira tout. Et bien entendu, sur le site de la radio, vous retrouverez tous les éléments. Et là, on mettra adresse et numéro de téléphone. Et bien voilà, vous étiez le dernier de la dernière émission de cette année. Merci beaucoup, Alexandre. On conclut toujours avec les meilleurs. Et ce soir, vous êtes le meilleur des meilleurs. Bonne fête à tous, merci beaucoup et à très bientôt l'année prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup, bonne fête.